Moment spécial aujourd'hui à l'Assemblée nationale à Québec, alors que le gouvernement a décidé d'acquiescer aux demandes exprimées par les victimes de l'ex-entraîneur de ski Bertrand Charest, qui a été reconnu coupable récemment de nombreuses agressions sexuelles sur plusieurs jeunes filles des skieuses d'élite à l'époque où les crimes sont survenus. Certaines de ces victimes ont d'ailleurs décidé de sortir publiquement de l'ombre la semaine dernière. Et avec nous ce soir, quelques heures après ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale, Olympien en 1998, conjoint de Jennifer Isle et directeur des opérations de B210 qui soutient ses victimes et plusieurs athlètes. Eh bien, Dominique Gauthier dans nos studios à Québec. Salut Dominique.
Hey, bonjour Mario.
Comment ça s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Comment vous avez vécu ça, toi, avec les filles, surtout? Beaucoup d'émotions.
Ah, quel beau moment. C'était tellement positif de voir ça, cette réponse-là de toutes les gens. Comme tu l'as dit, tous les partis, les parlementaires se sont levés debout. C'est une ovation, une des plus longues, sinon la plus longue depuis au moins les quatre dernières années, qu'on me dit. Il y avait plusieurs larmes sur le plancher de l'Assemblée nationale. Et c'était aussi, je pense, des larmes de joie, pas de joie, mais d'espoir. Je pense que tout le monde, et les filles, elles aussi, voyant la réponse, voyant qu'elles ont été écoutées par les gens du gouvernement du Québec, ça leur a vraiment, vraiment fait du bien. C'est une victoire. C'est pas la dernière victoire qu'on espère, mais c'est une grosse victoire aujourd'hui.
Concrètement, qu'est-ce que ces femmes-là demandaient au gouvernement, aux différents parlementaires, Dominique?
C'est un plan d'action qui est quand même assez simple. Donc, c'est un plan où on veut s'assurer qu'il n'y ait plus d'abus dans le sport, qui a déjà été travaillé depuis plusieurs semaines avec des gens qui sont dans le milieu. De ce plan-là, naturellement, on passe par l'éducation, l'information, s'assurer que tous les gens qui sont des intervenants dans le monde du sport, pas juste les entraîneurs, mais également les physiothérapeutes, les parents, les athlètes, que tout le monde puisse passer à travers cette éducation-là pour qu'on comprenne c'est quoi du harcèlement, comment ça se passe, comment on peut le détecter. Donc, c'est d'informer, éduquer. Ensuite de ça, c'est de mettre des procédures, des politiques pour s'assurer qu'on ait des barèmes qui sont très, très stricts et rigides au niveau des fédérations sportives. Comme par exemple, un exemple concret, c'est la règle de deux qu'on utilise souvent parce que je pense que c'est facile pour les gens d'imager cette règle-là. C'est-à-dire qu'il n'y ait jamais un mineur qui soit en présence prolongée en présence d'une seule personne. Donc, si un entraîneur fait de la reprise vidéo, ce qu'on fait souvent dans le monde du ski, ça peut pas être dans la chambre de l'entraîneur seul avec l'athlète. Il devrait y avoir soit l'assistant entraîneur, soit un physiothérapeute ou un autre athlète. Mais jamais qu'il se retrouve dans cette situation-là. Donc ça fait partie d'une des procédures qui serait demandée. Et également d'avoir un organisme indépendant qui pourra gérer tout ça. Parce que le problème, c'est que lorsqu'on essaie de mettre ça à l'intérieur des fédérations sportives elles-mêmes, l'athlète, comme ces filles-là, osera pas. Ou s'il ose, il va avoir peur de ne pas être entendu. T'sais, si on se plaint à notre propre fédération, ben là, c'est là où il peut y avoir des fois des gens qui vont peut-être soit tenter de nous museler, comme ça a été leur cas à eux, ou ils vont être moins en capacité de les aider. Si c'est un organisme indépendant, d'un, les athlètes vont parler plus, les victimes potentielles vont parler plus. Et des gens comme moi, qui sont dans le monde du sport, qui voient et qui entendent des choses, des parents qui voient peut-être des changements de comportement chez leurs enfants, pourrait dire, bon, ben moi, je vais appeler ces personnes-là parce que je veux qu'on fasse enquête ou qu'on s'assure qu'il ne se passe pas des choses de ce genre-là. Donc, ce serait ça, un officier, un commissaire indépendant qui pourrait aider à gérer tout ça. C'est les trois choses un peu, là, les trois étapes du plan. Mais l'objectif ultime, c'est que ce plan-là devienne conditionnel au financement public de ces fédérations sportives-là. Tant au niveau provincial, on semble avoir eu une bonne réponse aujourd'hui. Ça devrait être un projet qui sera voté éventuellement, mais au moins aujourd'hui, c'est un gros pas dans la bonne direction. Et ensuite de ça, au niveau fédéral. Donc, si une fédération veut garder son financement et recevoir son financement du gouvernement, elle devra avoir un critère qui sera celui dont on propose.
Donc, c'est fort intéressant tout ça. À quoi exactement Québec a dit oui aujourd'hui? De rendre conditionnelles les subventions ou plus que ça?
La motion qui a été votée unanimement aujourd'hui était de mettre en action ce plan-là. Donc, on a accepté et là, naturellement, bon, on a des élections ici le 1er octobre et le gouvernement qui sera en place à ce moment-là va mettre en place toutes les structures et on leur donne, dans le fond, jusqu'à l'année financière 2020. Donc, idéalement, ça serait le 1er avril 2019, donc dans un peu moins d'un an, où on pourra mettre en place ces choses-là. Donc, c'est sûr que ça va prendre quelques mois. Il y en a qui voudraient que ça aille plus vite, mais en même temps, faut quand même bien faire les choses. Donc, aujourd'hui, c'est une motion qui a été adoptée. Et ensuite de ça, ça sera de mettre ce plan en action. Puis ce que j'ai aimé aujourd'hui, Mario, c'est que On a parlé à toutes les, en fait, aux trois gros partis et chacun d'entre eux, c'était un message clair. On veut pas que ça soit juste des mots sur une feuille de papier qui soit votée aujourd'hui, mais que ça soit vraiment un plan d'action. On va vous écouter et on va le faire. Donc, tous aujourd'hui se sont compromis devant plusieurs personnes et les filles vont être même engagées, je pense, dans le processus pour s'assurer que les choses se fassent.
Toi, comment tu as réagi personnellement à tout ça, Dominique Gauthier, quand tu as pris connaissance de ça? C'est toutes des, pas toutes, mais beaucoup de filles que tu connaissais, mm-hmm. que tu côtoyais, originaires du même coin de pays ouais. que toi, notamment, ou d'autres que tu as connues plus tard dans ta carrière?
Oui, parce que les filles qu'on croisait, j'étais en fin de carrière quand elles commençaient leur carrière. Mais bon, les skieurs, on s'entraîne aux mêmes endroits. Hein. Il y a 3-4 glaciers en Europe et de septembre à novembre, on s'y croise là, assez régulièrement. Et naturellement, bon, on évolue dans le même milieu. Fait qu'on apprend à se connaître, on se côtoie un peu, sans être des grands amis. Là, j'ai pas personne là-dedans qui sont des amis personnels. Quoique là, avec ce qu'on vient de vivre, je pense que ça va le devenir. Là, on s'est tellement rapproché tout le monde à travers cette histoire-là. Mais ça me faisait tellement mal. Puis j'étais tellement heureux que ça soit sorti. J'avais beaucoup d'informations qui m'étaient refilées là, pendant le procès. Donc, j'en ai appris aussi beaucoup. Là,
toi, tu savais que les filles avaient été muselées à l'époque, là, à la fin des années 90?
Ben oui, quand c'était sorti, on avait su que, bon, quand ils l'ont sorti de là, pendant le championnat du monde junior, où ils ont sorti Bertrand Charest, parce que là, il y avait assez de monde qui avait parlé, où il y avait assez de fumée qui ont vu le feu. Mais par après, pourquoi c'est mort de même qu'on n'a pas entendu parler, je trouvais ça louche. Mais bon, c'est quand même pas mon sport. Moi, je suis en ski acrobatique. Fait que,
mais comme ami de
cette
fille-là,
on se disait pourquoi, ouais. comment il s'en est sorti, il n'y a rien qui s'est passé, mais bon, ça a repris 15 ans et là, ben, ça a refrappé fort.
Charest n'était pas dans ton sport, mais est-ce que tu as eu à le côtoyer de par le fait que vous étiez tous les deux dans les sports de montagne, évidemment?
Oui, même chose, on se croisait à Ting, bon, en québécois, on se croise à l'aéroport de Francfort, c'est sûr qu'on va placoter. Moi, j'étais pas encore entraîneur à ce moment-là, fait que je connectais pas avec lui à ce niveau-là, mais j'étais un petit peu plus vieux, puis lui est un entraîneur un peu plus jeune, fait qu'on se disait bonjour, on placotait sans plus. Mais par après, quand on l'a sorti de là, ben, je ne l'ai pas recroisé depuis, puis je suis bien content.
Comment tu as réagi quand il a été condamné?
Tellement content pour les filles, tellement content pour elles d'avoir été écoutées, entendues et crues. Puis, et aussi en même temps, ce qui s'est passé est tellement grave. La condamnation a eu lieu, puis je pense que ça va contribuer à peut-être refroidir les esprits de certains autres entraîneurs ou intervenants du monde du sport. Et si, même s'il ne s'était rien passé autre que le procès, il y aurait déjà eu un avancement, puis les filles en auraient été les ambassadrices de ce changement-là de culture. Mais là, il fallait vraiment amener ça plus loin, et c'est ce qu'elles font maintenant, puis de rendre ça vraiment concret, tangible, mais... J'avais mal au cœur. Plus j'en apprenais, j'avais mal au cœur. Comme vous avez tous appris cette semaine, je peux vous dire qu'on en a versé des larmes à voir ça, puis de rage et de tristesse. Mais là, je pense qu'on se déplace vers l'espoir. Puis les filles sont rendues là. Puis c'est beau de les voir comment elles ont évolué. Moi, j'ai côtoyé beaucoup Geneviève Simard pendant les Jeux de Pyeongchang parce qu'on était les deux pour Radio-Canada. Puis on était une chambre un à côté de l'autre, donc on allait souvent souper ensemble. Puis je peux te dire, l'évolution, le cheminement de Geneviève depuis à peine quelques mois est phénoménal. Même chose pour les autres filles, de voir à quel point depuis 8 jours, là, depuis que c'est vraiment sorti, à quel point elles ont cheminé, évolué, de les voir parler avec confiance aujourd'hui avec M. Legault, avec Sébastien Proulx, avec M. Couillard. C'est de toute beauté à voir, alors que c'était des filles que j'ai rencontrées dans les derniers mois qui étaient vraiment plus détruites. Aucune confiance, manque de confiance en soi, d'estime de soi. Là, elles sont en train de retrouver ça grâce aux médias, grâce à vous, grâce à l'amour de tout le monde qu'elles ont eu depuis une semaine. Donc, juste pour ça aussi, c'est tellement, tellement satisfaisant pour nous de les avoir aidées un peu dans ce cheminement-là.
L'organisme pour lequel tu es directeur des opérations B210 est impliqué, soutient ces jeunes femmes-là, ces ex-skieuses ou des femmes qui skient toujours là, par loisir. Mais quelle est l'implication de B210? De quelle façon vous leur avez offert votre soutien toi-même, Dominique?
Oui, ben c'est quand même particulier parce que ça relève pas de ce qu'on fait vraiment. Là, B210, là, en quelques mots pour les gens qui connaissent pas, là, c'est un organisme qu'on a créé qui est financé par des philanthropes d'un peu partout au Canada. On a amassé de l'argent du secteur privé pour venir aider certains athlètes canadiens à avoir un encadrement optimal pour augmenter leurs chances de gagner des médailles aux Olympiques. C'est ça qu'on fait, avec beaucoup d'autres choses en parallèle. Mais notre raison d'être, c'est d'avoir un impact positif sur le sport au Canada. Et donc, lorsque j'ai commencé à communiquer après le procès, là, lorsque Bertrand Charest était condamné, j'ai envoyé des notes à certaines d'entre elles ou à des amis de certaines d'entre elles. Puis j'ai dit, si jamais vous voulez avoir des conseils, que ce soit au niveau légal, pour des démarches à suivre, qu'est-ce que vous pourriez faire, qu'est-ce qui est en votre possible de d'amener ça à un autre niveau pour vous rendre justice. Là, c'est beau, il est en prison, mais il y a quand même des gens qui vous ont laissé tomber. Et c'est ça, moi, qui m'écœurait depuis le début de cette histoire-là. C'est à quel point, non seulement on les a pas écoutés, on les a muselés. C'est inacceptable. C'est horrible. Et il y a des gens, comme je le disais depuis le début, pendant le procès, qui doivent être imputables de ça. Donc, j'ai lancé la perche. Puis j'ai dit, je peux au moins vous aider. Moi, je ne suis pas un spécialiste légal, pas du tout, mais on a des gens derrière nous à B210 qui sont très bien branchés avec certaines firmes d'avocats. Et c'est comme ça qu'elles m'ont rejoint. J'ai amené J.D. Miller, qui est mon mentor, qui est cofondateur de B210 avec moi. Puis lorsque J.D. a parlé avec Gail, avec Geneviève, il avait les deux pieds dedans à la seconde où il les a entendus. Puis il a dit, je vais tout faire. C'est sûr que de gagner une médaille d'or, c'est positif et c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on a créé B210. Mais je pense que le travail qu'on est en train de faire présentement va avoir une plus grande contribution positive sur le sport au Canada.
Est-ce que parmi les 12 victimes de Bertrand Charest, il y a des athlètes que vous souteniez déjà là, au plan sportif, tout simplement? Là, pour
non.
Non, okay, il n'y avait aucune athlète qui était dans le giron de B210.
Oui, non, c'est ça. Même Geneviève m'écrit une belle note là, que je vais garder personnelle, mais entre autres, elle disait « J'aurais tellement ça être supporté par vous en 2008, avant les Jeux de 2010. J'étais jalouse des athlètes qui étaient avec B210, mais bon, on ne peut pas aider tout le monde. » Et bon, malheureusement, non, on n'était pas impliqué personnellement avec ces athlètes-là. Mais tu sais, c'est de voir à quel point, justement, notre organisme, on peut essayer d'avoir un impact de différentes façons. Puis ce groupe de filles-là, comme j'ai écrit dans un de mes articles sur Radio-Canada, un de mes blogs sur les entraîneurs, ce groupe de filles-là et 3-4 autres qui n'ont pas été des victimes, là, heureusement pour elles, bon, je pense entre autres à Mélanie Turgeon, Sarah Maud Boucher, qu'on pourrait ajouter à ce groupe-là, étaient, Mario, un groupe de filles qui avait le talent, le potentiel d'être l'équipe de ski la plus performante au monde, incluant les hommes et les femmes. Ce qu'on a connu avec les grandes équipes autrichiennes masculines, l'équipe norvégienne qu'on a vue dans les dernières années également, ces filles-là avaient ça comme potentiel. Et donc, le talent qu'on perd, non seulement des vies, là, parce que naturellement, les vies sont beaucoup plus importantes que les médailles, mais ce que je veux dire, c'est
dans
de démontrer à quel point...
Dans la transmission et la succession des choses, oui.
Si on les aide... On va peut-être en perdre moins des athlètes exceptionnels comme ces filles-là, qui ont eu des belles carrières pour certaines, mais qui auraient tellement pu faire plus.
Éric Gay était en entrevue avec nous. C'est pour moi l'emblème du ski, de l'excellence dans le ski alpin au Canada. Un homme père de 4 jeunes filles. Il a tenu des propos semblables aux tiens, indignés de l'attitude de Alpine Skiing Canada, là, de Ski Alpin Canada à l'époque, d'avoir voulu museler ses filles. Il dit, il y avait des gens autour. Il dit, Bertrand Charest, il était pas tout seul. On parle des mesures qu'on veut adopter du côté de l'Assemblée nationale, que jamais une jeune femme ou un jeune athlète, même un garçon, se retrouve seul avec un adulte. Mais il y en avait des gens autour de Charest dans le temps, et c'est ça qui est un petit peu révoltant, c'est que, et même la fédération, il y a beaucoup de coupables par complicité ou par association ou juste d'avoir fermé les yeux, ne trouves-tu pas?
Absolument, il y en a beaucoup, il y en a qui doivent mal dormir.
Vous les connaissez, vous autres? Hein?
Non, moi je ne connaissais pas, parce que c'est des gens du conseil d'administration, c'est des gens naturellement qui étaient sur le terrain pour le ski alpin, pour le moment dans les différents clubs, là. Donc les gens qui ont été contactés directement, du moins, il y a peut-être des gens qui savaient là, que moi je connais sûrement, là, mais je pourrais pas t'en nommer, mais les gens qui ont été contactés là, directement, là, bon, j'ai lu quelque chose sur la mère de Brit Janik, une athlète de l'Ouest, qui elle faisait pas partie des 12 victimes, mais là, il y a une mère qui avait contacté le conseil d'administration à l'époque, puis c'était pas un beau comité d'accueil qu'elle a eu non plus. Et donc, ces gens-là je ne peux pas te nommer parce que je ne les connais pas.
Non.
Mais ça serait facile de trouver qui était le président du conseil d'administration à ce moment-là.
Quand Charest commence à devenir un entraîneur sollicité là, par les fédérations, Équipe Québec, Équipe Canada, c'est difficile de croire qu'il n'y a pas personne qui suspectait quelque chose ou qui était à tout bout de champ toute seule avec des filles. Et quand j'ai entendu Geneviève Simard raconter qu'elle allait dormir à 15 ans dans un igloo pour pas se faire achaler, puis qu'elle convainquait une de ses amies partenaires de l'équipe de venir dormir avec elle dehors parce qu'il faisait moins froid. Je fais juste te reparler, Dominique, puis j'ai le poil raide de ses bras.
Ça démontre aussi à quel point un athlète est vulnérable, hein, parce qu'on est... On l'a entendu souvent là, depuis les dernières semaines, mais c'est ça. La situation, c'est qu'un athlète qui veut vraiment gagner les Olympiques, hein, tu peux pas être juste motivé. Hein, faut quasiment que tu sois obsédé. OK? C'est ta vie en dépend.
Une vie de déséquilibre.
Oui. Écoute, j'étais athlète, j'aurais été prêt à mourir. Écoute, là, je trouve ça complètement fou parce que j'ai deux enfants puis je vois pas les Olympiques de la même façon. Mais quand j'avais 17, 18, 19 ans, c'était mon rêve olympique. Puis si on décide que ma vie est terminée après, ça sera ça. Et il y en a comme ça. Donc, l'athlète est tellement vulnérable. Et si tu arrives malheureusement sur ton chemin, tu as un coach comme ça, ben, il peut faire ce qu'il veut avec toi.
Les athlètes d'élite encore plus vulnérables, Dominique?
Oui, je pense que oui, absolument. Oui, parce que je dis pas qu'un athlète de niveau plus récréatif ne peut pas être manipulé puis il peut pas se passer des choses, loin de là. Par contre, cette situation-là qui est critique, où vraiment là, on peut avoir l'abuseur, le prédateur, le loup dans la bergerie, là, ben c'est ça. C'est des athlètes qui c'est Dieu le coach pour un jeune athlète. Et c'est lui qui va te permettre d'arriver à accomplir ton rêve. Et lui aussi est motivé et même obsédé. J'ai été entraîneur aussi. J'avais cette même obsession-là. J'étais prêt à tout faire pour mes athlètes pour gagner, mais vraiment tout faire. Et c'est une potion qui peut être mal utilisée, malheureusement, parce que on peut faire ce qu'on veut avec ça. Mais on peut aussi s'en servir d'une bonne façon, puis c'est comme ça qu'on peut aussi créer des champions. Donc, il y a du positif là-dedans, mais ça rend la chose très sensible, très fragile, parce qu'on peut s'en servir à mauvais escient, comme ça a été le cas dans son cas.
Est-ce que tu penses qu'un jour, Ski Canada va payer le prix du fait d'avoir fermé les yeux sur tout ça, même d'avoir étouffé l'affaire de diverses façons?
J'espère. Oui. J'espère de tout cœur.
Dominique, ben bravo pour tout le soutien de B210. Bravo aussi pour tout le soutien personnel que tu amènes à ces courageuses filles-là. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce soir aux amateurs de sport. Je l'apprécie grandement.
Un grand plaisir. Merci, Mario.
Au revoir. Dominique Gauthier de B210 qui était avec nous aux amateurs de sport. On revient dans un instant pour le mot de la fin.